Vous écoutez On lit pour vous.
Quatre faits étonnants sur nos échanges commerciaux. Un texte de Francis Vaille, paru le 17 juin 2026 dans La Presse. Les nouvelles quotidiennes sur la guerre tarifaire avec les États-Unis nous font parfois perdre de vue certains éléments étonnants qui en ressortent. Voici donc quatre faits plutôt surprenants sur nos échanges commerciaux, un peu plus d'un an après le début des hostilités. Ils sont tirés d'une récente présentation faite lors d'un colloque sur les droits de douane à la fin mai 2026 par la chaire en fiscalité et en finances publiques, CFFP. 1. Nos exportateurs vendent ailleurs. C'est connu, les exportations canadiennes vers les États-Unis ont reculé en 2025 sous l'effet des droits de douane de Trump. Elles sont même en baisse de 31 milliards de dollars par rapport à 2024, soit de 5,2%. Ce qui est moins connu, c'est que cette baisse a été presque entièrement compensée par des exportations vers le Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne ou d'autres pays avec qui le Canada n'a pas d'accord de libre-échange. De fait, les exportations canadiennes vers le Royaume-Uni ont bondi de 17,9 milliards, 62%, en 2025, et celles vers l'Union européenne de 8,1 milliards, 23%. Avec les pays sans accord de libre-échange, le bond est de 5,3 milliards, 9,4%. En bout de course, en prenant en compte d'autres petites diminutions ailleurs dans le monde, la baisse nette des exportations canadiennes en 2025 a été de 0,15%. Elles ont totalisé 780 milliards de dollars. Les principaux secteurs qui ont participé à ce revirement sont ceux des produits énergétiques, des produits en métal ou en minéraux non métalliques et des véhicules ou pièces automobiles. Le Québec a aussi connu une hausse de ses exportations dans le reste du monde de 3 milliards de dollars. Mais cette hausse n'a pas compensé la diminution de 6 milliards vers les États-Unis. 2. Le Québec est moins dépendant. Autre fait étonnant tiré de la présentation, contrairement à la croyance répandue, l'économie du Québec est moins dépendante des exportations vers les États-Unis que celle des 7 des 9 autres provinces canadiennes. Plus précisément, 14% du PIB du Québec est lié aux exportations américaines contre 21% dans le cas de l'Ontario et 34% dans celui de l'Alberta, porté par le pétrole. Seules les économies de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse sont moins dépendantes que celles du Québec, avec 8% de leur PIB lié aux exportations américaines. Malgré tout, 72% des exportations du Québec sont destinés aux États-Unis, comme c'est le cas en Ontario. Et les exportateurs du Québec demeurent frappés par la guerre tarifaire, puisqu'en moyenne, les droits de douane américaine sur les produits québécois s'élèvent maintenant à 9%, contre 6,7% en Ontario et 2,8% en Colombie-Britannique. 3. Le Canada, parmi les plus dépendants. La photo comparative des provinces canadiennes ne change pas que l'économie canadienne, dans son ensemble, est très dépendante des États-Unis. Parmi la trentaine de pays industrialisés, le Canada se classe même au cinquième rang en ce qui concerne la concentration de ses exportations envers des partenaires. Seuls l'Islande, l'Australie, la Norvège et l'Irlande ont un niveau plus grand de concentration de leurs exportations. La concentration se mesure au moyen de l'indice Thiel Global. Plus il est élevé, plus la concentration est grande. Un indice de zéro signifie que les exportations sont réparties également vers chaque marché. L'indice maximal mesuré est de 7 en Islande. Le Canada a ainsi un indice de 6,1 contre 6,3 pour l'Australie et 3,8 pour les États-Unis. En queue de peloton figurent l'Italie, l'Allemagne et la France à moins de 3,4. La moyenne des pays de l'OCDE est de 4,5. 4. Le Canada fait mieux que prévu. En mars 2025, devant les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25 %, les prévisionnistes ne donnaient pas cher du Canada et de son économie. Or, les données publiées ces derniers temps témoignent d'une résilience plus grande que prévu pour l'année 2025. Fait valoir la présentation du CFFP. Le PIB du Canada a ainsi cru de 1,7 % en 2025, après soustraction de l'inflation, alors que le budget du gouvernement Carney de l'automne 2025 prévoyait seulement 1,1 %. C'est ce qui explique, entre autres, que le déficit fédéral ait finalement été de 66,9 milliards pour l'année 2025-2026, plutôt que de 78,3 milliards, comme ce qui avait été prévu à l'automne. L'économie du Québec n'a pas si bien fait, avec une hausse de 0,7 % de son PIB en 2025, moins que la prévision de 0,9 % formulée à l'automne 2025 lors de la mise à jour économique d'Éric Girard. Il reste que, comme au fédéral, le déficit comptable de 2025-2026 a lui aussi été dégonflé à 4,9 milliards, alors qu'on prévoyait 7,7 milliards l'automne 2025. Peut-être faut-il un certain temps avant que notre économie subisse les pleins contre-coups des mesures douanières de Trump. D'ailleurs, le Canada a perdu 112 000 emplois entre janvier et avril 2026, avec deux trimestres de recul du PIB et des intentions d'investissement modestes avant une remontée de 88 000 emplois en mai 2026. L'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ACUM, doit être renouvelé le 1er juillet 2026, ce qui apparaît invraisemblable à la lumière des informations qui circulent. Un report de la date ne signifierait pas nécessairement la fin de l'ACUM, mais plus le temps passe, plus les décideurs canadiens constatent à quel point le Canada doit diversifier son économie. La tâche s'annonce ardue, mais certains des faits relevés par le CFFP montrent que la mission n'est pas impossible. C'était 4 faits étonnants sur nos échanges commerciaux. Un texte de Francis Vaille paru le 17 juin 2026 dans La Presse.
La communauté, c'est plus qu'un clic. Une chronique d'Yves Lafontaine parue le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. Pour les personnes LGBTQ+, le mot « communauté » n'a jamais été une formule abstraite. Au Québec, il a longtemps désigné quelque chose de très concret, un réseau de solidarité capable de compenser ce que la société refusait encore d'offrir. Aujourd'hui, pourtant, le terme semble avoir changé de sens. À force d'être utilisé pour parler d'audience, de marché ou de groupe de consommateurs, le mot a perdu une partie de sa force. Or, pour les communautés LGBTQ+, il a longtemps été synonyme de survie. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde possède désormais sa communauté. Les marques ont une communauté. Les influenceurs ont une communauté. Les créateurs de contenu ont une communauté. Même les entreprises parlent de leur communauté lorsqu'elles désignent leur clientèle ou leurs abonnés. Mais pendant des décennies, faire partie de la communauté signifiait savoir où trouver de l'aide lorsqu'on était rejeté par sa famille, connaître le bar où l'on pouvait enfin être soi-même, fréquenter un organisme qui comprenait notre réalité ou participer à des espaces où il devenait possible de se faire reconnaître dans les autres. Avant que les institutions ne s'ouvrent progressivement à la diversité sexuelle et de genre, les communautés queer ont souvent construit leurs propres structures, publications, organismes communautaires, lignes d'écoute, groupes de soutien, équipes sportives et réseaux d'entraide. Pensons au rôle joué par les organismes communautaires pendant la crise du sida. Pensons aux groupes militants qui ont revendiqué la reconnaissance des couples de même sexe, aux publications comme Fugue, Hergé, Le 13 ou Le Berdache, qui ont permis à des générations entières de se reconnaître dans des récits qui leur ressemblaient enfin. La communauté n'était pas une identité, c'était une pratique. C'est peut-être ce qui distingue le plus les communautés d'hier et celles dont on parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Autrefois, appartenir à une communauté impliquait souvent une forme de participation. Il fallait se déplacer, rencontrer des gens, s'impliquer dans une activité ou soutenir un organisme. La communauté reposait sur des liens concrets. Aujourd'hui, il suffit parfois d'être exposé à du contenu pour avoir l'impression d'en faire partie. Évidemment, il ne s'agit pas de minimiser l'importance du numérique. Pour d'innombrables personnes LGBTQ+, particulièrement en région ou dans des milieux plus isolés, Internet a constitué une porte d'entrée essentielle vers d'autres réalités. Plusieurs ont découvert leur identité à travers des témoignages, des forums, des vidéos ou des créateurs de contenu. Pour certaines personnes, ces espaces ont même représenté une bouée de sauvetage. Mais il existe une différence fondamentale entre trouver une communauté en ligne et participer à sa construction. Les plateformes numériques entretiennent souvent une confusion entre visibilité et engagement. Nous suivons des comptes militants, partageons des publications, commentons des prises de position et réagissons à l'actualité. Ces gestes ont leur utilité. Ils permettent de faire circuler des idées, de sensibiliser et parfois même de mobiliser rapidement. Cependant, ils ne remplacent pas le travail collectif qui permet à une communauté d'exister dans la durée. Car les organismes qui accueillent les jeunes LGBTQ+, les groupes qui défendent les droits des personnes trans ou les équipes qui organisent les fiertés ne fonctionnent pas grâce aux algorithmes. Ils fonctionnent parce que des personnes donnent de leur temps, participent à des réunions, rédigent des demandes de financement, accompagnent des personnes vulnérables et maintiennent vivantes des institutions souvent fragiles. Autrement dit, la communauté n'existe pas parce qu'on la regarde. Elle existe parce que certaines personnes la font vivre. Cette distinction devient particulièrement importante dans le contexte actuel. Depuis quelques années, les droits LGBTQ+, font l'objet d'attaques de plus en plus coordonnées dans plusieurs régions du monde. les personnes trans et non-binaires sont particulièrement ciblées. Même si le Québec demeure généralement plus favorable aux droits LGBTQ+, que plusieurs autres juridictions, il serait naïf de croire que nous sommes complètement à l'abri de ces dynamiques. Pendant que plusieurs d'entre nous consomment la communauté sous forme de contenu, les mouvements hostiles aux droits LGBTQ+, continuent de s'organiser de manière très concrète. Ils financent des campagnes, mobilisent des militants, exercent des pressions politiques et développent des stratégies à long terme. Ils ont compris quelque chose d'essentiel. Les enjeux LGBTQ+ ne relèvent pas seulement de la représentation culturelle. Ils relèvent aussi du pouvoir collectif. C'est peut-être le véritable défi des prochaines années. Non pas retrouver une communauté queer disparue, mais réapprendre à distinguer l'appartenance de la participation. Car une communauté ne se mesure pas uniquement au nombre de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle se mesure à sa capacité de prendre soin des siens, de transmettre sa mémoire, de défendre ses acquis et de s'organiser lorsque les circonstances l'exigent. Elle se mesure aussi à sa capacité de créer des espaces où les personnes les plus vulnérables peuvent trouver du soutien et de faire vivre des institutions qui existeront encore dans 10 ou 20 ans. Dans un monde où tout semble conçu pour nous maintenir derrière nos écrans, il devient peut-être nécessaire de redécouvrir ce que signifie réellement « faire communauté ». Parce qu'une communauté n'est pas une audience, elle n'est pas un marché, elle n'est pas un taux d'engagement. Elle commence là où l'on cesse de seulement suivre, là où l'on décide de participer, là où l'on accepte que le collectif demande du temps, de l'énergie, de la mémoire, du travail et de la persévérance. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours photogénique. Ce n'est certainement pas toujours viral. Mais c'est probablement ce dont les communautés LGBTQ+ ont le plus besoin aujourd'hui. Face au recul démocratique et à la montée des discours anti-LGBTQ+, nous n'avons pas seulement besoin d'audiences queer plus engagées sur Instagram. Nous avons besoin de communautés capables de s'organiser hors du fil d'actualité, de se défendre hors des commentaires et de transmettre autre chose que du contenu. Car au bout du compte, une communauté, ce sont des gens qui ne se contentent pas de se suivre, mais qui choisissent de tenir ensemble. C'était « La communauté, c'est plus qu'un clic », une chronique d'Yves Lafontaine parue le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Comment la canicule modifie-t-elle la structure de notre sommeil profond? Un texte de Stéphanie Le Guillou, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science. La canicule ne perturbe pas seulement l'endormissement. En maintenant le corps dans un environnement trop chaud, elle peut modifier l'organisation de la nuit et réduire l'accès au sommeil le plus profond. Le sommeil n'est pas un état uniforme. Il se compose de cycles successifs, avec du sommeil lent léger, du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Le sommeil lent profond, aussi appelé stade N3, correspond à une phase où l'activité cérébrale ralentit nettement. Or, cette phase dépend en partie d'un phénomène très concret, la baisse de la température corporelle au début de la nuit. Quand l'air reste chaud, surtout lors des nuits de canicule, ce refroidissement devient plus difficile. Pour s'endormir et entrer progressivement dans un sommeil plus stable, l'organisme doit évacuer une partie de sa chaleur. La thermorégulation désigne ce système de contrôle qui permet au corps de maintenir sa température interne dans une zone compatible avec son fonctionnement normal. La nuit, cette régulation accompagne l'installation du sommeil. La température corporelle diminue, tandis que l'activité cérébrale bascule vers des phases plus lentes. Lors d'une canicule, l'environnement freine cette perte de chaleur. La chambre reste chaude, La peau évacue moins facilement l'excès thermique et le corps doit mobiliser davantage ses mécanismes de refroidissement, comme la transpiration. Ce décalage peut retarder l'endormissement et rendre les premières heures de sommeil moins stables. Ce point est particulièrement lié au sommeil profond. Les travaux récents sur la perte de chaleur corporelle pendant la nuit suggèrent qu'un refroidissement plus efficace est associé à une augmentation du sommeil lent profond. À l'inverse, lorsque la chaleur nocturne empêche ce refroidissement, l'organisme se retrouve dans un contexte moins favorable à cette phase réparatrice. Lors des nuits de canicule, la chaleur freine la baisse naturelle de la température corporelle, un mécanisme qui facilite normalement l'endormissement et l'accès au sommeil profond. La chaleur nocturne peut aussi modifier la continuité du sommeil. Un sommeil fragmenté se caractérise par des réveils ou micro-éveils répétés, parfois très brefs. Le dormeur n'en garde pas toujours un souvenir précis, mais ces interruptions peuvent alléger la structure globale de la nuit. Le sommeil profond est particulièrement présent en début de nuit. Si cette période est perturbée par une chambre trop chaude, une transpiration importante ou des réveils répétés, la répartition normale des stades du sommeil peut être modifiée. Le cerveau passe alors plus difficilement par des phases longues et continues de sommeil lent profond. Il faut toutefois rester prudent. Les données scientifiques ne permettent pas de dire que chaque nuit de canicule réduit le sommeil profond de la même manière chez tout le monde. L'effet dépend de l'intensité de la chaleur, de la température de la chambre, de l'âge, de l'état de santé, de l'hydratation et de la capacité individuelle à réguler la température corporelle. La canicule agit donc comme un perturbateur thermique du sommeil. Elle gêne la baisse naturelle de la température du corps, fragilise les premières heures de la nuit et peut rendre le sommeil plus léger et plus morcelé, avec un accès moins favorable au sommeil lent profond. C'était « Comment la canicule modifie-t-elle la structure de notre sommeil profond ?» un texte de Stéphanie Le Guillou, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science.
Les tours connectées au Montréal souterrain sont plus populaires. Un texte de Vincent Larrain, paru le 18 juin 2026 dans la presse. Le Montréal souterrain ne séduit pas que les touristes français. Les entreprises à la recherche d'espaces au centre-ville pour héberger leurs travailleurs sont également attirées par une connexion à son réseau de galeries piétonnes. C'est ce que suggère une récente étude de la firme Avison Young qui s'est penchée sur l'espace disponible dans les tours de bureaux connectés au réseau, nom officiel du vaste réseau souterrain piétonnier. Historiquement, les immeubles de bureaux du centre-ville de Montréal, bénéficiant d'un accès intérieur direct à ce réseau de galeries, avaient toujours maintenu des taux de disponibilité inférieurs à ceux des immeubles qui n'en ont pas, souligne la firme dans son rapport. Or, à la suite du resserrement du marché locatif du centre-ville de la fin des années 2010, cette prime à la localisation avait essentiellement disparu. Mais elle connaît un retour en force dans la foulée de la reprise progressive des locations au centre-ville, fin 2024, un phénomène engendré par la volonté de plusieurs grands employeurs de ramener leurs employés au bureau. Une connexion qui se paie. Depuis, le taux de disponibilité des immeubles connectés au réseau est en recul constant. Il s'établissait à 17,3% au premier trimestre de 2026, soit bien en deçà du sommet de 26,5% du troisième trimestre de 2023 vers la fin de la pandémie. En revanche, les immeubles non connectés ne connaissent pas un tel engouement et affiche encore des taux de disponibilité supérieurs à 20 % sans signe tangible de baisse à court terme, remarque Avison Young. Or, cette disparité est loin d'être anodine, car elle se reflète dans le prix des loyers demandés par les propriétaires des immeubles connectés au réseau. L'espace s'y loue entre 4 et 5 $ le pied carré, plus cher que dans les immeubles non connectés, selon Avison Young. À titre indicatif, il faut compter 18 mètres carrés, environ 200 pieds carrés, par travailleur, selon les conventions du secteur de l'immobilier, ou 14 mètres carrés, environ 150 pieds carrés, dans le cas de bureaux très denses comme les centres d'appel. L'emplacement devient important. Cet engouement pour les immeubles connectés au réseau n'est pas nouveau en soi, estime le président de la firme Avison Young, Patrick Lorrain, mais ce serait révélé en raison du vide créé par la pandémie dans les tours de bureaux du centre-ville. Avant la pandémie, en 2020, et même avant, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de différence parce que le marché était excessivement serré. Des options de bureaux, il n'y en avait pas tant que ça, explique Patrick Lorrain. L'accès au réseau serait d'autant plus recherché à l'heure actuelle que les immeubles dits de catégorie A, soit ceux juste sous les immeubles les plus luxueux et les plus recherchés, n'y sont pas tous connectés. Or, comme l'espace vient à manquer dans les tours les plus haut de gamme, où le taux d'inoccupation pourrait frôler 2 % à la fin 2027, toujours selon Avison Young, les entreprises se tournent vers la classe d'actifs inférieure. Et là, l'emplacement devient important, souligne Patrick Lorrain. Une prime REM? Cette disparité entre les immeubles connectés ou non au réseau devrait toutefois s'atténuer au fur et à mesure que les employés rempliront les tours de bureaux du centre-ville, estime le président d'Avison Young, soit d'ici 2 à 3 ans. Outre ses nombreux services et restaurants, le réseau offre un accès aux transports en commun, très apprécié des travailleurs, surtout en période hivernale, souligne Avison Young. Patrick Lorrain hésite toutefois à pointer la nouvelle connexion au REM depuis le centre-ville comme le moteur de cette nouvelle vague d'engouement pour le réseau. Il y a beaucoup de momentum en ce moment au centre-ville et c'est de plus en plus facile d'y accéder, dit-il. C'était Les tours connectées au Montréal souterrain sont plus populaires. Un texte de Vincent Larrain, paru le 18 juin 2026 dans la presse.